Alexandre Malfait, candidat LR-UDI sur la deuxième circonscription du Pas-de-Calais. Alexandre Malfait, ancienne attachée parlementaire de Catherine Genisson quand elle était députée PS. Aujourd'hui, vous êtes adjoint au maire d'Arras, en charge de la culture et de l'attractivité du territoire, conseiller départemental dans l'opposition, et donc investi depuis quelques mois maintenant par Les Républicains et l'UDI pour vous présenter en tant que candidat aux législatives. Alors, un mot d'abord sur la question, une question importante hein, pour les citoyens, c'est celle du cumul des mandats. Quel mandat conserveriez-vous si vous étiez élu député le 18 juin prochain, Alexandre Malfait?
Écoutez, il y a effectivement une loi sur le non-cumul des mandats qui est aujourd'hui en vigueur pour les parlementaires. Évidemment, cette loi, je m'y conformerai. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une question qui est prématurée. Moi, aujourd'hui, je me présente aux élections législatives. J'ai envie de dire, laissons passer l'élection, laissons les habitants faire leur choix. Et ensuite, évidemment, il sera temps pour moi, si je suis élu et si les électeurs me font confiance, de choisir le mandat que je garderai, le mandat local que je garderai, puisque de toute façon, il ne sera plus possible pour moi, dans tous les cas, d'être adjoint au maire, puisqu'il n'est plus possible de cumuler un mandat de parlementaire avec un exécutif local. Donc, je ne pourrai plus être adjoint au maire. Mais néanmoins, ce choix entre le mandat de conseiller départemental et le mandat de conseiller municipal d'Arras, je ne le ferai pas seul. Je le ferai avec les élus, avec le maire d'Arras et les autres élus municipaux, et je ferai mon choix en toute conscience, mais après l'élection législative.
La dernière fois qu'on vous a interviewé, Alexandre Malfait, c'était lors d'un meeting, celui d'Emmanuel Macron à Arras, hein, le meeting d'entre-deux-tours. Vous auriez pu être un candidat en marche ?
Moi, aujourd'hui, je fais le constat que les électeurs et les Français ont fait le choix de placer en tête du premier tour un candidat qui est aujourd'hui président de la République, qui ne provenait d'aucune formation traditionnelle. Ce candidat, il s'est trouvé face au Front National au second tour, et j'étais effectivement, comme vous le soulignez, présent au meeting d'Emmanuel Macron à Arras, avant tout pour dire à quel point je ne souhaitais évidemment pas l'élection de Marine Le Pen, et c'est pour ça que dès le soir du premier tour, j'ai clairement écrit, notamment sur ma page Facebook, que je voterai sans aucun état d'âme pour Emmanuel Macron. Après, sur la personnalité d'Emmanuel Macron, sur ce qu'il propose, j'ai dit lors de ma déclaration de candidature que moi, dans tous les cas, ce que je voulais pour le pays, c'est que le pays avance. Et donc je voulais non pas être un député qui s'oppose, mais un député qui propose, parce qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui sont mis sur la table par le président de la République concernant la baisse du coût du travail, concernant le pouvoir d'achat, concernant aujourd'hui la moralisation de la vie publique, concernant le handicap, concernant l'école, sur lesquels nous devons travailler avec Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas demandé l'investiture En Marche. Il y a des gens qui ont su passer du Parti socialiste au macronisme comme ça en quelques jours, alors qu'ils incarnent quand même les 5 années de Hollandisme, qu'ils ont voté toutes les lois qui étaient proposées par François Hollande et qui aujourd'hui viennent nous expliquer qu'ils représentent l'alternance pour les Français. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de rester dans mon camp, j'ai choisi de rester dans ma famille politique, l'UDI. Aujourd'hui, c'est soutenu donc par les Républicains dans le cadre de cette élection législative. J'assume le programme de la droite et du centre pour ces élections législatives, avec les différences que nous avons avec Emmanuel Macron, mais dans tous les cas, je dis que je ne serai pas un député d'opposition, je ne suis pas un député qui vient pour prendre une revanche par rapport à l'élection présidentielle, mais bien un député qui veut construire pour le pays, pour la France.
J'allais vous poser une question sur la candidature de Jacqueline Maquet, mais je pense que vous y avez répondu dans cette réponse. Il y a, vous l'avez dit, quand même une communauté d'idées entre le programme de la droite et le programme de En Marche, notamment un peu sur la question de la régulation du marché du travail. Vous êtes un libéral social, plutôt pour l'assouplissement des 35 heures. Le code du travail, il faut le revoir aussi ?
Moi, je pense que le temps de travail aujourd'hui, il doit être négocié, travaillé au plus près au sein des entreprises. Je pense qu'il faut faire confiance aujourd'hui aux entreprises qui créent aujourd'hui l'emploi, aux entreprises qui sont quand même en très très grande majorité tenues et dirigées par des gens responsables, il faut aujourd'hui leur faire confiance et leur donner la liberté d'organiser finalement l'entreprise et le temps de travail comme ils le souhaitent, chez eux, avec les salariés. Parce qu'une entreprise, à un moment donné, elle connaît des pics d'activité, elle connaît à un moment donné un repli d'activité, une certaine saisonnalité dans l'organisation du travail. Et c'est pour ça que je pense qu'une organisation qui s'applique pour tout le monde de la même manière, ça n'a aujourd'hui pas de sens. Donc je pense que en ce sens-là, je peux me qualifier effectivement de libéral. Après, évidemment, il faut un certain cadre juridique. On ne peut pas non plus laisser toute la liberté aux entreprises de faire ce qu'elles veulent par rapport aux salariés. C'est pour ça aussi qu'il faut garder un minimum de règles et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de s'asseoir sur le code du travail. Mais en même temps, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se satisfaire d'avoir un code du travail aussi complexe qui fait que quand on veut embaucher un salarié dans ce pays, quand on est un petit patron, quand on est une entreprise de moins de 10 salariés, on est déjà découragé à l'avance parce qu'on pense avant tout aux contraintes que l'on a pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut changer ça. Hier, j'étais dans un restaurant dans une commune rurale de la circonscription où ces gens-là m'expliquaient ce qu'ils devaient faire pour embaucher un extra à raison de 3 ou 4 heures sur des temps bien particuliers, et où ils disaient en un mot que ça n'avait aucun sens parce qu'ils devaient faire exactement les mêmes suivre exactement les mêmes procédures que pour un salarié embauché à temps plein au sein d'un CDI. Je pense que c'est tout ça aujourd'hui qu'il faut assouplir, mais avec quand même un certain équilibre. Je pense que c'est avant tout ça qu'il faut chercher et travailler.
Il y a quand même, il me semble, une forme de paradoxe d'être à la fois en faveur d'un libéralisme économique et puis en même temps, en tant qu'élu local, on voit aussi les conséquences parce que cette doctrine, cette idéologie, finalement, assèche aussi les ressources locales. Et puis, j'ai noté dans une interview à La Voix du Nord où vous disiez défendre le TGV. Il me semble que c'est aussi la libéralisation du rail qui fait que y a certaines dessertes aragoises qui sont menacées.
Je vois pas quel est le paradoxe. En l'occurrence, pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Aujourd'hui, moi, je dis que concernant donc le marché du travail, le temps de travail, il faut donner aujourd'hui plus de liberté et surtout encourager ceux aujourd'hui qui veulent entreprendre dans ce pays et arrêter de créer, de recréer, de re-recréer des normes et des contraintes à ceux qui veulent entreprendre. Ensuite, sur la question aujourd'hui des dotations, j'en parle à chacune de mes réunions publiques. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 3 dernières années ? On a eu un État qui depuis des dizaines et des dizaines d'années est incapable de faire des économies et qui dépense plus que ce qu'il gagne. On gère chacun dans nos foyers, vous gérez un budget, je gère un budget à mon échelle personnelle. Il n'y a personne aujourd'hui qui dépense plus qu'il gagne. Ou à un moment donné, il a des problèmes, il se fait appeler par la banque et à un moment donné, on lui dit très très vite stop. Bon. Et dans notre pays, depuis des dizaines et des dizaines d'années, on a laissé croire qu'on pouvait dépenser plus que ce qu'on gagnait. Pardon. Ça aujourd'hui, ça n'est plus possible. Mais néanmoins, aujourd'hui, on ne peut pas faire porter, comme on l'a fait depuis 3 ans, les économies que l'État était incapable de faire sur, en l'occurrence, les collectivités, notamment les communes qui ont été quand même rincées et plus que sollicitées ces 3 dernières années. Je le vois en tant qu'adjoint au maire d'Arras où on a subi près de 4 millions d'euros de baisse de dotation, ce qui a été quand même très très compliqué à suivre. La communauté urbaine d'Arras, ça a été la même chose. Je ne parle même pas des petites communes rurales. Donc ça, moi, je suis contre la poursuite de ces baisses de dotation aux collectivités parce qu'à un moment donné, ça se traduit forcément par des baisses de services. Et sur la question du TGV, là aussi c'est pareil. Sur la question du TGV, si vous prenez le TGV, et je le prenais encore pas plus tard que la semaine dernière, on voit aujourd'hui que nos dessertes entre Paris et Paris sont aujourd'hui les plus remplies. Ce sont aujourd'hui des lignes qui sont extrêmement occupées, qui sont donc rentables pour la SNCF. On sait que ce problème-là, il est assez compliqué, puisqu'en fait, les problèmes se posent au-delà de la desserte aragoise quand le TGV ne fonctionne plus en ligne à grande vitesse. Mais le TGV pour notre territoire, c'est un élément indispensable de notre développement économique. On est sur un territoire quand même qui connaît des grands succès sur le plan économique, avec notamment ces dernières années des implantations d'entreprises importantes et en plus des entreprises à forte valeur ajoutée. Et on sait qu'une bonne desserte TGV, c'est une condition sine qua non pour continuer d'avoir des entreprises sur notre territoire. Et là, je considère que c'est une obligation dans l'aménagement d'un territoire et ça fait partie, pour moi, des missions de service public que doit exercer absolument la SNCF.